Il est 6h à Paris, 5h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Le Proche-Orient à la une avec ses frappes israéliennes dans le sud du Liban.
Les premières depuis le cessez-le-feu de novembre. Israël dit répondre à des tirs de roquettes, au moins 8 morts au Liban, alors qu'à Gaza, l'offensive a fait au moins 520 morts cette semaine. Un conflit qu'une troupe de théâtre palestinienne tente de raconter en faisant un lien avec Guernica, reportage à Ramallah dans ce journal. En Turquie, quatrième nuit de mobilisation contre l'arrestation d'une figure de l'opposition, le maire d'Istanbul. L'ancienne présidente argentine interdite d'entrer sur le territoire américain en raison des sanctions qui pèsent contre elle, dit Washington. Christina Kirchner dénonce plutôt une faveur faite au président argentin. Et puis, après les JO, les frères Lebrun, toujours aussi populaires, les places valent cher et l'on se presse pour admirer les stars du ping en ce moment au championnat de France.
Après 4 mois de calme relatif à la frontière libanaise, Israël mène des raids meurtriers au Liban.
Au moins 8 morts dans ces bombardements. Israël dit répondre à des tirs de roquettes, mais le Hezbollah nie toute responsabilité. Ce sont les premiers tirs depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre les deux parties le 27 novembre.
Le cessez-le-feu à Gaza, lui, a volé en éclats il y a environ une semaine.
Au moins 520 morts depuis la reprise des frappes israéliennes dans l'enclave où il est toujours aussi difficile de documenter ce qu'il se passe. La presse étrangère n'y a pas accès. Les journalistes palestiniens, eux, risquent leur vie tous les jours. Au moins 4 ont été tués cette semaine dans les bombardements. Alors pour raconter ce qu'il se passe justement, une troupe de théâtre en Cisjordanie occupée a décidé de faire le lien avec Guernica, cette ville espagnole bombardée par les Allemands en 1937 et immortalisée dans une très célèbre toile de Picasso. Amira Souilem a assisté à une représentation de cette pièce palestinienne appelée Guernica Gaza.
Avec une vue plongeante sur les collines de Ramallah, la terrasse de ce centre culturel est envoûtante. Mais pour Émile Sabat, la tête de la troupe de théâtre qui se produit ce soir, elle est devenue angoissante.
Tel Aviv est par là et Gaza est par là. Donc on entend d'ici les avions passer et aller bombarder Gaza à 3h du matin. Tout cela fait qu'on se sent impuissant et qu'on se demande ce qu'on peut bien faire.
Du théâtre, justement. Pour conjurer son sentiment d'impuissance et sa culpabilité, il s'est lancé dans l'aventure d'une nouvelle pièce. Intitulée Guernica Gaza, elle cherche à redonner chair aux Gazaouis qui semblent avoir tout perdu, jusqu'à leur identité.
Les informations en arabe nous décrivent comme des numéros. On a des noms, on a des histoires, on a des espoirs, on a des rêves.
And we have dreams. Baba.
Sacha Asbah campe le rôle d'une jeune surfeuse gazaoui de 10 ans, un rôle dont elle ne sort pas indemne.
Cette pièce est très différente des autres parce qu'on la joue en plein génocide à Gaza. Je ressens la responsabilité de raconter ça. Lors de la dernière représentation, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Ayn Rajab, la petite fille qui a reçu 336 balles dans son corps.
Après une tournée en Cisjordanie occupée, la troupe espère se produire prochainement à l'étranger pour y porter la voix des Gazaouis sous le feu d'une guerre sans fin. Amira Souilem, Ramallah, RFI.
Et c'est devant un théâtre que des centaines d'Israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv à l'appel de l'opposition. Son chef Yair Lapid veut une grève générale si le gouvernement poursuit son bras de fer contre la Cour suprême. Le premier ministre israélien veut limoger le chef du Shin Bet, la sécurité intérieure. Limogeage suspendu par la Cour suprême et Benjamin Netanyahou refuse de tenir compte de cet avis. Ronen Bar ne restera pas à la tête du Shin Bet, a-t-il déclaré hier en ajoutant « Il n'y aura pas de guerre civile, Israël restera un état démocratique ». Fin de citation.
Autre manifestation contre le pouvoir, cette fois en Turquie.
Nouvelle nuit de mobilisation au soutien au maire d'Istanbul, arrêté pour corruption et terrorisme. Des milliers de Turcs dénoncent une manœuvre politique pour empêcher Ekrem İmamoğlu de se présenter à la présidentielle de 2028. Son parti, le CHP, est la principale formation d'opposition. Elle est en tête dans les sondages. Le CHP tient d'ailleurs une primaire aujourd'hui pour désigner son candidat. Et le parti a décidé d'élargir cette primaire à tous les Turcs. Pour le politologue Ahmet İnsel, cela donnera plus de poids au résultat final du scrutin.
Désormais, ils vont ouvrir une deuxième urne à côté de l'urne réservée aux membres du parti. Tous ceux qui veulent soutenir İmamoğlu, ils peuvent aussi voter dans ils appellent à voter dans le second urne pour İmamoğlu. Donc du coup, le Parti républicain du peuple a transformé cette action gouvernement comme un moyen de repolitiser, de redynamiser l'opposition. Pour le moment, cela semble réussir, puisque malgré l'interdiction de toute manifestation prononcée par le préfet d'Istanbul, des milliers de personnes se sont rassemblées à Istanbul pour demander la libération immédiate de İmamoğlu et de lancer İmamoğlu comme leur candidat. Et dans les principales villes de Turquie, des manifestations similaires ont eu lieu.
Le politologue Ahmet İnsel avec Romain Lemaresquier, le maire d'Istanbul, a été présenté hier devant un procureur. Il a dénoncé des accusations immorales et sans fondement contre lui.
En République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC M23 annoncent leur retrait de Walikale Centre dans le Nord Kivu.
Ils évoquent leur volonté de favoriser un climat propice au dialogue, un dialogue direct avec Kinshasa que les rebelles ont toujours dit souhaiter et une idée à laquelle s'est récemment rallié Kinshasa alors que le président Tshisekedi en avait fait une ligne rouge. Pourquoi ? Ce revirement, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwangba, a donné hier des explications.
Nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même et surtout pour le président de la République, c'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Cela ne veut pas dire que certains principes ne demeurent pas et ne restent pas inébranlables. La rencontre de Doha n'est pas venue se supplanter aux efforts qui étaient en cours, mais plutôt s'inscrire dans une logique d'accompagnement à ces efforts. La voie des solutions africaines, nous continuons à la privilégier. Évidemment que nous ne voulons pas que sous le prétexte d'une solution africaine, des questions parfois épineuses où des vérités ne soient pas dites.
La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwangba. Au Niger, l'attaque d'une pipeline stratégique. Des hommes armés ont saboté vendredi soir ce pipeline qui évacue le brut nigérien vers le port de Cotonou. Ça s'est passé près de la frontière avec le Nigeria. Les vidéos de cet incendie géant circulent en boucle sur les réseaux sociaux. Ce sabotage intervient une semaine après l'expulsion par la junte de Niamey de trois directeurs des grandes sociétés chinoises qui travaillent dans l'exploitation du pétrole.
RFI 5h08 en temps universel, 1h08 à Washington aux États-Unis, plus de 500 000 migrants légaux sommet de quitter le pays.
Des Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens, Vénézuéliens sont concernés. L'administration Trump met fin au statut légal de ces personnes arrivées dans le cadre d'un programme lancé par le gouvernement précédent. Et cette décision suscite l'indignation des associations de défense des droits humains. Elle non plus n'est plus la bienvenue aux États-Unis. L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner, visée par des sanctions américaines, elle vient d'être interdite d'entrer sur le territoire américain. Mais cette dernière estime que cette interdiction n'est pas liée à ces sanctions, mais qu'il s'agit plutôt d'une faveur du président américain à son homologue argentin Javier Milei. À Buenos Aires, Théo Conscience.
Pour Cristina Kirchner, Javier Milei a été trahi par son empressement à se féliciter des sanctions américaines à son encontre. Dans un communiqué rapidement relayé par le président argentin, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a annoncé vendredi que Madame Kirchner était interdite d'entrer aux États-Unis en raison de son implication dans d'importants cas de corruption. Fin de citation. En décembre dernier, Cristina Kirchner a été reconnue coupable de fraude et de corruption par la justice argentine. Elle a été condamnée à 6 ans de prison et à l'inéligibilité à vie dans une affaire d'attribution frauduleuse de marchés publics alors qu'elle était présidente entre 2007 et 2015. L'ancienne chef de l'État, qui nie toute malversation et dénonce une persécution politico-judiciaire, a déposé un recours devant la Cour suprême argentine. Celle qui reste l'une des principales figures de l'opposition à Javier Milei a réagi vendredi sur le réseau social X en accusant le président argentin d'avoir expressément demandé à son allié Donald Trump de prendre ses sanctions à son encontre. Théo Conscience, Buenos Aires. RFI.
Au Pakistan, la répression de la communauté baloutche.
Les autorités ont violemment dispersé un rassemblement pacifique organisé hier dans la capitale du Baloutchistan, région située dans le centre du pays. Lors de ces affrontements, 3 manifestants ont été tués, 18 arrêtés, dont Marang Baloch, une figure de la cause baloutche. Précision Yelena Tomic.
Gaz lacrymogène, coups de matraque et tirs à balles réelles contre des manifestants pacifiques, incluant femmes, enfants et personnes âgées. Les images donnent un aperçu de la répression brutale verbales des autorités pakistanaises, répression justifiée par des troubles présumés à l'ordre public ou des liens avec des groupes séparatistes. Les défenseurs des droits humains dénoncent plutôt une violence d'État et une volonté d'étouffer des voix dissidentes. En témoigne l'arrestation de Mahram Baloch, 31 ans, figure centrale du mouvement engagé contre les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires imputées à Islamabad dans cette région pauvre et dont les sols regorgent de ressources naturelles. Le parcours de Mahram Baloch, nommé l'an dernier par Time Magazine parmi les 100 personnalités les plus prometteuses de l'année, a débuté à l'adolescence lorsque son père a été enlevé par les forces de sécurité pakistanaises et dont le corps portant des marques de torture a été retrouvé 2 ans plus tard. Mahram Baloch est devenu depuis le symbole de la résistance pacifique dans une région marquée par des décennies de conflits et de marginalisation. Plusieurs ONG ont demandé sa libération immédiate ainsi que celle des autres manifestants détenus selon eux arbitrairement.
Yelena Tomic. Le pape François rentre aujourd'hui au Vatican après 5 semaines à l'hôpital pour une double pneumonie. Son état de santé a continué de s'améliorer ces derniers jours. Il poursuivra sa convalescence chez lui à la résidence Sainte-Marthe, convalescence d'au moins 2 mois.
Enfin Marion, il faut avoir les yeux bien entraînés pour suivre ces échanges endiablés à Levallois-Perret.
Et bravo pour ces rimes Julien. On parle donc de tennis de table avec les championnats de France près de Paris où les balles fusent et le public donne de la voix, surtout pour les frères Lebrun, stars des Jeux Olympiques. Plus de 6 mois après, Solène Ravenel l'a constaté, la Lebrun mania n'est pas retombée.
Les rois de ces championnats, Alexis et Félix Lebrun, qui sont allés chercher une première victoire lors de ces championnats de France en double hier soir dans une ambiance survoltée.
La salle était pleine, il y avait une belle ambiance, on a quand même bien vibré et ouais, c'était cool vraiment.
Il faut dire que les 2 médaillés de bronze aux Jeux Olympiques sont attendus. Céline Martin et Adrien sont venus avec leurs parents.
Pour voir Félix Lebrun.
J'ai toujours rêvé de les voir. Je connais Félix Lebrun et Alexis Lebrun.
Mais c'est l'ensemble des joueurs qui a pu profiter de cette ambiance chaleureuse. Simon Gauzy, également médaillé de bronze aux Jeux, est ravi.
Ils font beaucoup de bien au ping, Alexis et Félix. On en profite. Là, je pense qu'il y avait une super ambiance. J'espère que les gens sont régalés.
Les tribunes remplies dès le début de la journée n'ont jamais désempli. Un engouement pour le tennis de table qui impressionne Christophe Legout, directeur de la compétition.
Ça se voit à plein de niveaux, ça se voit avec les gens qui font la queue dehors, il y a des gens qui cherchent des places avec des panneaux un peu comme à Roland-Garros. Et puis les places les plus chères ont été vendues les plus vite parce que les gens ont envie d'être tout proche des frères Lebrun.
Et l'ambiance sera sûrement encore plus forte ce soir lors de la finale homme où les frères Lebrun pourraient s'affronter pour un remake de la finale de l'année dernière.
Un reportage de Solène Ravenel près de Paris au championnat de France de tennis de table.
Et le journal signé Marion Cazanov, merci beaucoup. Dimanche 23 mars, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et la Turquie à la une. Une 4e nuit de mobilisation dans le pays. Alors qu'hier, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été entendu par la justice pour la première fois depuis son arrestation. Mercredi, on appelle notre correspondante, Anand Lauer, sur place à 6h, temps universel. L'info d'ici là, c'est notamment le Niger. Et de nouvelles informations sur l'attaque terroriste qui a tué 44 personnes vendredi dans la région de Tillaberi. Le journal Afrique dans moins de 20 minutes, il est 6h13 à Paris. Mais pour commencer ce matin, une histoire qui va vous en rappeler une autre.
Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidais d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Puis sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan.
La voix de Forrest Gump, le personnage mythique du film éponyme, est tout aussi légendaire, sorti en 1994 parmi les nombreuses aventures qu'il raconte assis à un arrêt de bus. Il y a cette course, commencée par hasard et qui lui fait traverser tous les États-Unis, un moment du film resté célèbre et qui a inspiré un Chilien, Antonio Marshall, marathonien de 41 ans, qui court depuis quelques années habillé exactement comme le personnage de Tom Hanks, même vêtements, même cheveux, même barbe, et même comme dans le film, des compagnons de route désormais qui courent avec lui, inspiré aussi par son message de tolérance. Naila de Rouanet.
Tout commence pendant la pandémie de Covid. En télétravail chez lui, Antonio Marshall se laisse pousser la barbe et les cheveux. Un jour, alors qu'il fait son footing, un passant lui fait remarquer sa ressemblance avec ce célèbre personnage de film qui court sans s'arrêter.
Quand ils ont annoncé le retour du marathon de Santiago, j'ai repensé à ce que m'a dit ce monsieur et j'ai eu l'idée de faire la course déguisée en Forrest.
En quelques clics, Antonio achète la casquette Booba Gump, le t-shirt jaune, le short rouge ainsi que les baskets blanches. Après quelques hésitations, il sort finalement inaugurer son costume avec sa grande touffe de cheveux et sa longue barbe.
Dès les premiers mètres, une publication Twitter disait que Tom Hanks était au Chili et ça s'est viralisé.
Antonio a même appris certaines répliques du film par cœur et il a adopté la façon de courir de Forrest Gump.
L'idée, c'est de représenter le personnage de la manière la plus authentique possible pour que les gens, même 30 ans après la sortie du film, sentent la présence de Forrest Gump, qu'il est toujours d'actualité.
Mais au-delà du déguisement, il s'identifie lui-même à Forrest Gump. Ce personnage souvent moqué à cause de son autisme, Antonio, lui, était un enfant timide.
Ça a été très dur au primaire, entre 8 et 12 ans. On me donnait de méchants surnoms, alors je jouais seul. Quand les gens ne connaissent pas la vie des autres, ils inventent.
Depuis qu'Antonio incarne Forrest, il a acquis de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il en profite alors pour faire passer des messages contre le harcèlement et sensibiliser à l'autisme.
Je crois que la normalité, c'est d'être différent. Donc à partir de là, il faut tolérer et respecter les différences, les valoriser. Chaque différence, chaque individualité a un potentiel.
Lors de sa dernière course de l'année à Santiago, plus de 80 personnes ont couru à ses côtés, certains avec des bonnets de Noël, d'autres des chapeaux de lutin.
On aime la cause qu'il défend, donc on a décidé de l'accompagner aujourd'hui.
Je vais là où se trouve Forrest.
Vous venez de l'appeler Forrest?
Oui, c'est sous ce nom qu'on le connaît. J'ai adoré le film. Et quand j'ai vu Antonio, j'ai dit « Waouh !» Donc à chaque fois qu'il participe à une course, on y va.
Il est iconique, il s'habille comme lui, on a envie de le suivre.
On a des proches qui sont atteints d'autisme, avec différents types de handicap, c'est pour ça qu'on est là.
La course commence et une participante crie « Cours Forrest, cours !» Naïla Drouané, Santiago, RFI.
Le Forrest Gump chilien dans notre reportage international à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, à un peu moins de 2 mois maintenant de l'élection pour la présidence du parti Les Républicains, et une certitude depuis cette semaine, ce sera bien un duel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, puisqu'aucun autre candidat ne s'est déclaré dans les délais impartis. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour.
La campagne s'est nettement tendue entre les deux hommes.
Oui, en challenger, Laurent Wauquiez est contraint à l'attaque avec cette ligne « Vanter l'indépendance contre la solidarité au fragile et composite gouvernement de François Bayrou ». Alors il saute sur toutes les balles, notamment celle offerte sur un plateau par Bruno Retailleau le week-end dernier. Ce dernier menace désormais de démissionner de son poste si, dit-il, la France cède sur le dossier algérien dans lequel, on le rappelle, il entend mener un bras de fer à travers une riposte dite graduée allant jusqu'à la dénonciation des accords de 1968, ce qui n'est pas sans risque puisque le président Macron n'est pas forcément favorable, du moins publiquement, à une telle action. Laurent Wauquiez s'en saisit dans une interview au Parisien. L'exécutif, je cite, a choisi de capituler avant même de combattre. Si le président refuse de dénoncer des accords, rester au ministère de l'Intérieur n'a aucun sens. Mardi, nouvelle pique. Lors des questions au gouvernement, le chef des députés LR s'adresse au Premier ministre en déplorant l'absence de grandes lois immigration. Il demande « Êtes-vous déterminé à donner les moyens à votre gouvernement d'agir ?» Rebelote jeudi dans un tweet sur X en réaction au réquisitoire de 10 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Laurent Wauquiez, je cite, explique que la riposte algérienne, elle, n'est pas graduée. Cette mise sous pression ressemble furieusement à la stratégie du Rassemblement national et le ministre de l'Intérieur choisit de ne pas y répondre. Du moins, la semaine dernière, il s'est risqué à une formule à la radio. Les chiens aboient, la caravane passe. Son concurrent extrapole dans la foulée, se disant convaincu que Bruno Retailleau regrette cette formule malheureuse.
Et en coulisses, en revanche, les équipes de Bruno Retailleau parlent.
Oui, son entourage le dit avec ironie. Laurent Wauquiez a cet avantage sur nous de ne pas être chef de groupe à l'Assemblée nationale. Son absence aux 2 débats sur l'Ukraine est une honte, je cite. Laurent Wauquiez délaisse, il est vrai, ses fonctions de député pour faire près de 120 déplacements de campagne jusqu'à la mi-mai. Il faut faire des cartes, comme on dit dans le jargon. 20 000 nouveaux adhérents ont rejoint les rangs d'LR depuis le début de la campagne, soit à cette heure 60 000 potentiels électeurs à la mi-mai. Dans cette bataille de l'ombre, les retaillistes montrent quelques signes d'agacement ces derniers jours. L'un d'eux avoue en off, Laurent Wauquiez a la main sur le parti et ça hurle de plus en plus chez nous. De quoi laisser penser à un autre match dans le match que les Wauquiezistes imposent, le candidat des adhérents contre celui des barons du parti, façon pour eux de minimiser les nouveaux soutiens de poids lourds pour Retailleau, Valérie Pécresse et la ministre Sophie Primas ces derniers jours.
Raphaël Delvolvé de notre service politique, merci beaucoup. Des investissements massifs dans les infrastructures et l'armement, une formation civile et militaire à la défense, un soutien renforcé à l'Ukraine. Dans notre livre international ce matin, on parle de la Pologne, acteur devenu central depuis le début de la guerre, et a fortiori aujourd'hui, au moment où l'Union européenne veut se réarmer face à la menace d'un abandon des États-Unis, la Pologne possède depuis 2023 la première armée de l'Union européenne et la troisième de l'OTAN. Et dans son dernier ouvrage intitulé « Pologne, histoire d'une ambition », le diplomate Pierre Buller, ancien ambassadeur à Varsovie, plonge dans l'histoire pour expliquer comment ce pays se retrouve aujourd'hui au centre du jeu. Il nous en parle au micro de Juliette Gabrand.
Bonjour Pierre Buller.
Bonjour.
Comprendre le moment polonais, c'est le sous-titre de votre livre. Et avant de détailler ce qu'est ce moment, je voulais vous demander s'il était pour vous le signe d'un déplacement du barycentre de l'Union européenne vers l'Est, comme on dit souvent.
La Pologne se retrouve aujourd'hui dans une sorte de centre de gravité de la principale question qui agite l'Union européenne, qui est la question de la sécurité. Elle se pose en leader quasiment des pays de la ligne de front. Ce sont les pays baltes, la Finlande, et les Nordiques aussi, qui comprennent que la menace russe est véritablement existentielle. Et pour ces États, mais aussi pour l'Union européenne. Déjà, elle a un voisinage géographique avec la Russie, elle a une frontière avec la Russie, et la Biélorussie, qui est un État vassal de la Russie, ainsi qu'avec l'Ukraine. Il se trouve que la Pologne a une longue histoire avec la Russie. Elle a été occupée par ce pays dans ses différentes incarnations tsaristes ou soviétiques pendant 170 ans. Ça laisse des traces dans les mémoires, dans la chair de Pologne. Et elle considère qu'elle a aussi un rôle d'alerte face aux menées du Kremlin vis-à-vis des pays plus à l'ouest de l'Europe qui sont beaucoup moins sensibles à cette menace ou qui l'ont souvent sous-estimé. Les Polonais ont vraiment sonné l'alerte depuis des décennies et peuvent dire aujourd'hui, ben voilà, nous vous l'avions dit.
Dans le livre, vous expliquez comment la Pologne a régulièrement été un rempart contre les invasions pour l'Europe.
En effet, puisque dès le XIIIe siècle, la Pologne était envahie par les Mongols, par la Horde d'Or. Les siècles suivants, la Pologne a fait barrage aux armées ottomane, a mis en déroute même les armées ottomanes qui assiégeaient Vienne. Et puis, en 1920, l'armée rouge était sur le point de déferler sur l'Allemagne. Elle voulait passer sur le cadavre de la Pologne, c'était les termes utilisés. La Pologne a fait barrage, et là aussi, c'est peu connu en France, mais elle considère qu'elle a sauvé l'Europe des assauts des bolcheviques, fondamentalement. Et donc, à chaque fois, elle s'est vue comme, au fond, ce rempart qui absorbe le premier choc des assauts de l'Est.
Et aujourd'hui, la Pologne est une clé de voûte, militairement notamment.
Avant Donald Tusk, le Parti Droit et Justice, prenant conscience de ce risque, avait décidé de doubler pratiquement les dépenses militaires. La Pologne donc est passée en l'espace de 2 ans de 2% à 4% du produit intérieur brut, c'est colossal, et en 2025, le niveau devrait être de 4,7% du produit intérieur brut, et avec la moitié de ses dépenses de défense consacrées à de l'acquisition d'armements et d'équipements, ce qui est beaucoup plus que ce qui est recommandé par l'OTAN. Et elle considère que ce n'est qu'en s'armant qu'on peut se préparer à toutes les éventualités. Et donc la Pologne se retrouve pratiquement aujourd'hui avec une armée de 200 000 hommes, c'est-à-dire l'équivalent de la France, plus que l'Allemagne. C'est le troisième budget militaire de l'Union européenne, avant même l'Italie.
Et ce moment polonais, pour y revenir, c'est aussi celui du retour de Donald Tusk au pouvoir. Simplement, le pays reste très divisé. Ce changement de gouvernement à Varsovie, vous le voyez comme un signe d'espoir ou vous redoutez sa fragilité ?
Je dirais que nous sommes dans une situation assez très fluide, très liquide. Nous avons une tornade de l'autre côté de l'Atlantique, un personnage qui s'appelle Trump, qui manie quand même des thématiques qui ont une résonance, notamment dans les formations nationales populistes, partout en Europe, hein, pas seulement en Pologne, qui se sentent au fond confirmés dans leurs convictions et dans leurs choix. Bon, nous sommes encore à 2 ans et demi des prochaines élections législatives. Il y a une élection quand même, il y a une élection présidentielle le 18 mai en Pologne. Le président a peu de pouvoir, mais il a un pouvoir de veto. Il se trouve qu'aujourd'hui, le candidat de la coalition est très devant le candidat du Parti Droit et Justice. Mais très difficile de dire, et pas seulement en Pologne, ailleurs aussi, très difficile de dire ce qui va se passer. C'est comme un kaléidoscope, vous voyez, on tourne un petit peu et ça change complètement le paysage.
Merci Pierre Buhler. Votre livre « Pologne, histoire d'une ambition » est publié aux éditions Talendier.
Pierre Buhler, au micro de Juliette Garbrand.
RFI Matin.
RFI Matin le dimanche, c'est aussi l'occasion d'accueillir Steven Jambeau qui nous fait entendre un extrait de l'Atelier des médias. Bonjour Steven.
Bonjour Julien.
Cette semaine, vous revenez sur le démantèlement des médias publics internationaux américains entamé par l'administration Trump.
Oui, tout est parti d'un décret présidentiel signé vendredi 14 mars par Donald Trump, classant l'Agence des États-Unis pour les médias publics américains diffusant à l'international, le USAGM, parmi les activités inutiles de la bureaucratie. Cette agence regroupe Voice of America, Radio Free Europe et Radio Liberty, mais aussi Radio Free Asia, MBN pour le Moyen-Orient ou encore OCB pour Cuba. Les budgets de cette agence sont donc gelés. Des milliers d'employés à travers le monde ont été placés en congé administratif. Et ces médias sont donc à l'arrêt. Ils ne diffusent plus de journaux d'information et leurs sites internet sont figés depuis plus d'une semaine.
Votre invitée pour en discuter se nomme Maud Kessar. Elle est directrice de recherche à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire à Paris et c'est une spécialiste de la diplomatie publique des États-Unis.
Oui, je lui ai demandé si l'on est en train d'assister à une disruption à nul autre pareil en matière médiatique.
Alors je pense qu'on est effectivement dans une disruption. Moi je parle peut-être plus même de schisme idéologique dans la mesure où en fait ces attaques qui sont faites sur ces bastions finalement médiatiques du monde libre créent un renversement en fait des valeurs. Exactement comme on a pu avoir un renversement des valeurs avec le discours porté par Gigi Vance qui est venu en Europe à Munich. Et ce renversement des valeurs, ce n'est plus finalement le fait que les États-Unis aient un espace informationnel libre et démocratique comme on a pu le connaître, mais un espace qui se ferme et qui se ferme sur un modèle qui s'approche de plus en plus d'un modèle autoritaire et c'est ce qui est particulièrement inquiétant.
On rappelle que ces médias diffusent très souvent dans des pays où la liberté de la presse est soit absente, soit menacée.
Tout à fait. Que les supprimer au prétexte qu'ils coûteraient trop cher n'est pas un motif valable. Mon invité a rappelé un ordre de grandeur. L'Agence américaine pour les médias internationaux a un budget annuel de 867 millions de dollars. Là où, par exemple, le budget américain de la défense s'est levé à plus de 900 milliards de dollars en 2024. Un rapport donc de 1 à 100. Bref, ce choix est idéologique, affirme mon invité Maud Kessar.
Et quelles conséquences, Steven, pour la liberté de la presse dans le monde et quelles suites pour ces médias publics américains?
Alors, pour Reporters sans frontières, cette décision de l'administration Trump marque l'abandon du rôle historique des États-Unis en tant que défenseur de la liberté de la presse. Les Allemands de la Deutsche Welle ainsi que la maison mère de RFI et France 24, France Média Monde, ont signé un communiqué conjoint d'indignation. Je cite « C'est un rempart contre la désinformation et les manipulations qui risquent de disparaître dans un contexte de polarisation du monde où la production d'une information pluraliste et multilingue n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. » Alors certains pays européens, comme la République tchèque, souhaiteraient que l'Union européenne prenne à son compte le financement de certains de ces médias américains comme Radio Free Europe ou Radio Liberty, mais tout ceci a évidemment un coût. En attendant, comme souvent aux États-Unis, des procédures judiciaires sont en cours pour dénoncer ce gel du financement des médias publics américains, des procédures qui pourraient s'avérer longues.
Va-t-on vers la fin du soft power médiatique américain, c'est donc le sujet de l'Atelier des médias à 11h10, temps universel sur RFI et dès maintenant, en version longue, en podcast. Merci Steven Jambeau.
Bonne journée Julien.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
Il est dit qu'à Nauruz, les maisons sont transformées en jardins de blé et de lentilles germées. La nature vibre, le sumac, son acidité mêlée à la légèreté du riz, des herbes partout comme une plongée dans un plat de printemps. Et la lumière, Nauruz à la table d'une femme chef et de sa famille, tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence Denavy sur RFI.